connaître. Merci beaucoup. Et malheureusement, la traduction que je viens de vous donner n'est pas tout à fait exacte. Excusez-moi de faire un tout petit peu de grec, mais le verbe exégéomai contient également la racine ag qui veut dire conduire. Et si on voulait traduire avec justesse ce verset, le dernier verset du prologue, il faudrait dire « Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître et nous y conduit. » Ce qui change tout, parce que non seulement il va nous le faire connaître d'une connaissance intellectuelle, mais il nous conduit auprès de lui. Et d'où l'importance de la parole qui n'est pas seulement une connaissance qui nous est donnée, mais qui est également un chemin pour nous conduire vers le Père. D'ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus lui-même nous dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc la parole est véritablement un chemin. Alors, à partir de cette découverte de Jésus comme nous conduisant vers le Père, eh bien, quelle importance devrait prendre la parole de Dieu dans nos vies? Alors, je voudrais commencer tout simplement en vous disant, mais comment ruminer la parole de Dieu? Et c'est amusant parce qu'en grec, le verbe « ruminer » comme les animaux, c'est également le verbe qui est employé pour ruminer la parole. On la remue dans ses... Et je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les chameaux ruminent. Non ? Les chameaux, ils avalent des épines, tout ça, et la nuit, ils font remonter de leur estomac tout ce qu'ils ont avalé pour arriver à le déglutir de nouveau et à rendre les épines un peu plus mangeables. Alors, c'est vraiment une rumination qui doit se vivre avec la parole de Dieu. Et la parole, elle va remonter de nos cœurs, on va pouvoir la ruminer. Mais comment? Alors, malheureusement, trop souvent, vous lisez la parole de Dieu comme des sauvages. Excusez-moi l'image, mais elle est tout à fait juste, je crois. C'est-à-dire, autrefois, nos ancêtres, comment est-ce qu'ils vivaient? Ben, ils partaient, ils ramassaient un oiseau, ils attrapaient un lapin, ils prenaient un poisson, ils cueillaient une plante, ils faisaient de la cueillette. Et vous, vous faites pareil avec la parole de Dieu, elle vous réjouit, alors vous prenez de temps en temps. Mais depuis 3000 ou 4000 ans, l'agriculture a fait des progrès quand même. Eh bien, il faut qu'on travaille la parole de Dieu en creusant cette parole. Et il me semble que toute personne qui a été jusqu'au CM2, vous voyez que c'est pas tout le monde, c'est bon pour tout le monde ça. Toute personne qui a été jusqu'au CM2 a tout ce qu'il faut pour ruminer la parole, c'est-à-dire pour faire une analyse grammaticale et logique d'un texte. C'est-à-dire, je prends un texte d'évangile, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il dit? Comment réagissent les apôtres? Comment réagit la foule? Est-ce qu'il y a des citations de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a des notations de lieux et de temps qui serait importante? Voilà tout ce que nous devons nous poser, et ensuite, comment moi je réagis devant ce texte que je viens de travailler. Par exemple, lorsque dans Saint Marc, on nous dit que Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins, qu'est-ce que ça vous dit? Non. ça ne vous dit rien, mais c'est ça qui est dramatique. Parce que... Non, 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 pas du tout ça, c'est votre imagination qui affabule. En réalité, dans nos Bibles, vous avez une petite note qui renvoie au livre des rois, et je vous cite le texte du livre des rois. On vint annoncer au roi Akab qu'un homme arrivait, il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Et le roi Akab, il prend sa tête entre ses mains, il dit « Merde !» C'est pas dans la Bible ça, hein, mais c'est l'équivalent. « C'est le prophète Élie qui vient encore m'ennuyer. » Eh bien, quand on nous présente Jean-Baptiste habillé comme le prophète Élie, eh bien, les gens, ils comprennent, ça y est, c'est Élie qui revient. Et donc, c'est le Messie qui arrive. Parce qu'on savait que et le prophète Élie reviendrait avant l'arrivée du Seigneur. Alors, voilà un exemple. Un autre exemple de l'importance des références au Premier Testament. Dans Saint Matthieu, du moment où le roi Hérode fait tuer tous les enfants de Bethléem, on nous dit « c'est Rachel qui pleure ses enfants ». Ça vous dit quelque chose? Seigneur, pardonne-leur. Mais vraiment, hein? Oh là là, quelle catastrophe, là. En réalité, dans vos Bibles, vous avez une note qui renvoie au livre de Jérémie, au chapitre 30, et c'est le livre de la consolation d'Israël. Voici que tes péchés sont pardonnés, voici que tout le monde va arriver à Jérusalem pour faire de nouveau la fête avec le Seigneur. Alors vous voyez, les notations de temps, c'est de référence au Premier Testament, c'est fondamental. Ensuite, des références de lieux. Par exemple, Zachée, c'est Jéricho. Jéricho, c'est quoi? La Galilée, oh là là! Oh Jéricho en Galilée, Seigneur, pardonne-lui! Pardonne-lui! Ah, les trompettes! Les trompettes de Jéricho! Mais Jéricho, c'est la porte d'entrée de la terre promise! Et donc, ce que Zachée va vivre, en fait, pour lui, il entre dans la véritable terre promise. Car il va se convertir complètement. Il va changer de vie. Alors, voilà des notations qui sont extrêmement importantes. Également, dans Jean 7, 37, il nous est dit « Le jour de la fête, le grand jour », Jésus dans le temple s'écria, dans le parvis du temple s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors vous, ça ne vous dit rien du tout, parce que vous n'avez pas creusé le sens de le jour de la fête, le grand jour de la fête des tentes. Le grand prêtre dans le temple faisait une prière, Seigneur, donne-nous enfin les eaux vives dont nous avons besoin. C'est quand même pas rien que le grand prêtre fait cette prière dans le temple et au même moment, Jésus d'une voix forte s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Tout ça pour vous montrer l'importance de creuser la parole de Dieu avec notre intelligence. Car le bon Dieu, il nous a donné une intelligence, c'est fait pour s'en servir. Alors maintenant, je voudrais reprendre l'image de la semence dans l'évangile de Marc. Parce que je suis persuadé que nous devons prendre chaque jour un temps pour nous asseoir au pied du Maître et écouter sa parole. Alors je vais prendre le chapitre 3e de saint Marc au verset 35 et j'irai jusqu'à 4, 11 ou 12 parce que sinon ça sera trop long. Alors, arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de Jésus, autour de lui. On lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Ils sont où ? Dehors. Retenez bien ce « dehors ». Vous avez la foule de ceux qui sont assis autour de Jésus et vous avez la mère de Jésus et ses frères qui sont là dehors. Il leur répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » En fait, on assiste à la création d'une nouvelle famille. Désormais, les frères et les sœurs et la mère de Jésus, c'est ceux qui sont assis autour de lui à écouter sa parole. Et il ajoute, « Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Et pourquoi il ne dit pas « mon père » ? Parce qu'il n'a qu'un seul Père, c'est le Père, son Père éternel. Alors, la volonté de Dieu, c'est justement de venir s'asseoir autour de lui pour écouter sa parole. Après, vous avez la parabole du semeur. En fait, ce que je suis en train de commencer à vous montrer, c'est la naissance de l'Église à partir de l'écoute de la parole de Dieu. C'est une naissance que souvent on ne voit absolument pas. Mais saint Marc nous montre la naissance de l'Église à partir de l'écoute de la parole de Dieu. Le chapitre 4e, vous allez avoir la parabole de la semence, puis son explication. Et au centre, vous aurez une petite visite d'une maison, puis on va sortir, il y aura encore des paraboles sur la semence. Et au chapitre 5e, Jésus va guérir un homme, il va guérir une femme, et il va guérir une enfant. Un homme, une femme, une enfant, c'est quoi ? C'est une famille. Eh bien, on voit jaillir l'Église à partir de l'écoute de la parole de Dieu. Et il me semble que ça devrait nous donner beaucoup plus envie de lire et de ruminer la parole. Car pour entrer dans le mystère de l'Église, eh bien, il nous faut écouter la parole. Alors, je vous lis la parabole du semeur. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble autour de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir sur la mer dans une barque. Alors là, il y a une faute de grammaire, mais qui est tout à fait volontaire chez Marc. Jésus est assis où ? Sur la mer. Ben, normalement, on aurait dû dire « il est assis dans une barque sur la mer ». Mais non, c'est « il est assis sur la mer ». Et si vous connaissez bien les psaumes, Dieu seul peut chevaucher les monstres marins. Dieu seul peut marcher sur la mer. Alors Jésus, lui, il est sur la mer et on nous dit toute la foule était à terre face à la mer. Donc vous avez vraiment Dieu qui va enseigner et à terre tous les hommes que nous sommes. Et il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Alors écoutez la parabole parce que je vous poserai des questions après, ou au moins une question. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, Voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Et quand le soleil fut monté, il a été brûlé et faute de racines, il a séché. Il en est aussi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et montant et se développant, ils donnaient du fruit et ils ont rapporté 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Et Jésus disait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà donc la parabole. Sur quoi va porter le thème de la parabole ? Quel est le premier mot qu'on a entendu de la bouche de Jésus ? Écoutez. Le dernier mot ? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc le thème essentiel de cette parabole, c'est l'écoute. L'écoute, c'est probablement le verbe qui revient le plus souvent dans la parole de Dieu. Écoute Israël, Shema Israël. Et écouter, c'est pas facile du tout. Ceux qui ont été enseignants ou qui sont enseignants le savent bien. Les élèves, souvent, ils sont partis se promener dans leur village ou dans leur maison ou ailleurs, mais... Eh bien, cette parabole, Jésus lui-même va l'expliquer. Alors moi, je ne vais pas l'expliquer, c'est Jésus qui l'explique. Mais avant d'avoir l'explication, on a quelques petits versets qu'il nous faut creuser. Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12. Voilà qu'on retrouve ceux qui l'entouraient avec les 12. Se mirent à l'interroger sur les paraboles. Et Jésus leur dit, « À vous, le mystère du royaume, du règne de Dieu est donné. Mais pour ceux qui sont dehors, voilà qu'on retrouve le dehors, pour ceux qui sont dehors, tout devient énigme. Pour que tout en regardant, ils ne voient pas, que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Et il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Alors, pourquoi est-ce que Jésus, tout d'un coup, de peur qu'ils se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné ? Jésus, il ne veut plus que les gens se convertissent. C'est terrible, ça. Alors, où est-ce qu'est la lumière ? Parce que ce petit verset de saint Marc, il a fait couler des litres d'encre. Il y a des livres et des livres qui expliquent ou qui n'arrivent rien à expliquer. Alors, où est la solution ? Eh bien, elle est très simple. C'est que la condition sine qua non pour devenir disciple de Jésus, c'est de venir s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. Il n'y a pas d'autre manière de devenir disciple sinon de venir s'asseoir au pied de Jésus à écouter sa parole. Et là, moi je trouve ça merveilleux. À vous, le mystère du royaume est donné. Pour que le mystère du royaume me soit donné, il faut que je vienne m'asseoir au pied de Jésus à écouter sa parole. Et moi je suis tenté de dire avec un peu d'humour, mais je le crois profondément, celui qui ne se met pas assis au moins un quart d'heure ou 20 minutes tous les jours pour écouter la parole du maître, eh bien, il est en danger de péché mortel. Alors, je le dis avec humour, hein, mais pourquoi ? Parce que le mystère du règne ne peut pas lui être donné. Combien de temps vous perdez tous les jours en choses inutiles ? Et je mets la télévision dans les choses inutiles. Et alors, je vous invite à prendre une balance Roberval. Vous vous rappelez, les vieilles balances avec deux plateaux, et puis on mettait les poids d'un côté. Eh bien, vous mettez sur un plateau le temps que vous perdez en choses inutiles tous les jours, et vous mettez de l'autre côté le temps que vous passez à écouter la parole de Jésus, à lire l'Évangile. Et de quel côté va pencher la balance ? Ben oui, ben, moi je pense que un quart d'heure par jour, oh Jésus, il sait très bien qu'on est hyper booké de plein de manières, mais au moins un quart d'heure par jour, vous devriez pouvoir vous asseoir au pied du maître. Et moi je vous invite à prendre un évangile, à commencer dès le début, et vous prenez un paragraphe ou deux paragraphes. Maintenant, l'évangile est bien partagé en petits paragraphes et vous creusez, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, et vous allez voir que si vous faites ça tous les jours, eh bien, vous allez voir se mettre en place en vous une stalactite ou une stalagmite. Vous savez, quand une goutte d'eau qui tombe tous les jours, eh bien, progressivement, ça devient quelque chose de merveilleux. Et par expérience, pour l'avoir fait depuis plus de 50 ans, eh bien, je peux vous dire que maintenant, je me réjouis de continuer à ruminer la parole de Dieu et elle devient vraiment vivante. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint peut jouer avec la parole que j'ai mis dans mon cœur et que lui a mis aussi, et à ce moment-là, la parole éclaire la parole en permanence. Alors voilà, moi je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous mettre au pied du maître, car c'est vital à vous, à ceux qui seront au pied du maître, le mystère du royaume est donné. Mais aux autres, ça ne peut pas leur être donné, car c'est la condition sine qua non, c'est d'abord de venir s'asseoir au pied de Jésus. Et d'ailleurs, pour voir la cohérence de l'évangile, Jésus avait dit à Simon le premier jour, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et au début du chapitre 2, on voit quatre hommes qui portent un paralytique et ils vont l'amener là où était Jésus. Or, dans l'Évangile, les seuls quatre hommes dont on ait entendu parler, c'est les premiers disciples. Et bien donc, ils commencent leur mission de pêcheurs d'hommes qui est d'amener ou d'apporter au pied de Jésus les hommes. C'est pas nous qui allons les convertir. Nous, on annonce Jésus en amenant les gens au pied de Jésus et c'est lui qui va faire le travail de conversion ensuite. Alors, la parabole expliquée par Jésus. Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été semée. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racine. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole, qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit, 30 pour 1, 60 pour 1 ou 100 pour 1. Alors, première question, qui est le semeur ? Vous avez écouté ce que j'ai dit ? On nous dit, le semeur sème la parole. Et avant, on nous a dit au début de la parabole, écoutez, voici que le semeur est sorti. Mais on ne sait pas qui est le semeur. Voyez comment vous interprétez immédiatement, sans faire attention au texte lui-même. C'est Jésus. Ben non, c'est pas Jésus. Pourquoi? Parce que vous tous, vous êtes appelés à être le semeur. Et c'est important qu'on ne nous dise pas qui est le semeur. Et après, moi je suis étonné parce que j'ai encore vu quand j'étais enfant, des semeurs qui mettaient une espèce un appareil en plomb ou en zinc qui mettaient autour de leur ventre avec le blé dedans, et puis ils avaient un geste comme ça. Ça, c'était. Mais moi, j'ai jamais vu un semeur qui semait des grains sur la route. Il avait un geste qui était d'une précision. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grains qui tombent sur le chemin? Alors, pour le comprendre, moi, j'ai été chercher dans un dictionnaire d'archéologie agricole à Toulouse, à l'université, comment on faisait les cultures il y a 2000 ans en Palestine. Et on nous dit que dans un champ, au centre du champ, avec des branchages, on faisait une petite surélévation pour que les enfants puissent venir et faire du bruit toute la journée pour que les oiseaux ne viennent pas manger le blé. Alors, tous les jours, ils passaient par un petit chemin, et donc ce chemin, la terre avait été bien tassée, et on semait avant de labourer. Voilà encore une particularité de Terre Sainte il y a 2000 ans, on semait avant de labourer. Oh, Jésus, il avait regardé, il savait parfaitement comment on faisait à l'époque. Et après avoir semé la graine, on labourait avec une espèce d'outil qui retournait juste un tout petit peu de terre. Alors, ben, quand on arrivait au bord du chemin, le chemin il était tellement dur que ben, on passait de l'autre côté. Et de toute façon, il allait de nouveau... Alors les graines qui étaient tombées sur l'endroit où il y avait le chemin, voilà l'image du diable qui arrive et qui retire la parole. Et ça, est-ce que ça vous arrive que la parole, vous l'accueillez, et puis hop, immédiatement après, elle part. À la fin d'une lecture, ça ne vous arrive pas parfois de dire, mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Plus que parfois.
Eh oui, plus que parfois, oui. Et moi, je peux vous dire, pour vous faire rire un peu, c'est qu'un jour, les évêques, c'est un diacre qui lit la parole. Alors un jour, je devais prêcher, j'avais rien préparé, et j'ai pas écouté l'évangile. Et tout d'un coup, j'entends acclamons la parole de Dieu. Et alors je me dis, mais comment tu vas t'en tirer? Alors, comme il y a des plans hors sec, j'ai dit, l'évangile est tellement merveilleux qu'on va prendre une minute pour l'intérioriser. Et pendant cette minute, j'ai été relire l'évangile rapidement pour pouvoir parler sur lui. Mais c'est... La graine qui tombe au bord du chemin, c'est souvent notre cas. Ensuite, vous avez la graine qui tombe dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux-mêmes de racines. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. Alors, moi, je peux vous donner un exemple me concernant. Il n'y a pas eu de persécution, mais un jour, j'avais fait un mariage à Saint-Siffrin, à Carpentras, et après mon homélie, j'étais content parce que je pense que j'avais bien prêché sur l'amour, le couple, etc. Et il fallait l'importance de l'amour dans la vie. Et puis, je sors de la cathédrale à la fin du mariage, il y avait une voiture qui bloquait la mienne. Et ben j'ai commencé à crier, à me mettre en colère. J'ai dit, ben, tu parles bien de l'amour, et une demi-heure après, tu commences à crier. Ben, ça nous arrive souvent. On est des hommes d'un moment. La parole, elle n'a pas le temps de s'enraciner en nous. Et après, vous avez d'autres sont ensemencés dans les épines. Alors maintenant, c'est clair que la semence, c'est la parole. Et aujourd'hui, toutes les études qu'on a menées nous montrent la justesse de cette image, car la semence, elle a une puissance extraordinaire. On sait maintenant qu'elle est capable de soulever des cailloux qui font 3 ou 4 fois ou 10 fois son poids grâce à sa force, à son énergie, Et si elle n'y arrive pas, elle va contourner le caillou pour arriver à sortir. Alors, d'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Alors là, moi j'ai deux exemples étonnants. Un adolescent, quand j'étais aumônier de jeunes à Carpentras, en début de cinquième, je ne le vois plus. Alors qu'avant, il venait à l'aumônerie, tout ça. Bon. Je le rencontre dans les rues, devant la sortie du lycée, et je lui dis, mais on ne te voit plus. Bon, il me dit, j'ai tout fait, j'ai plus besoin de venir, j'ai tout fait. Ben, je lui dis, mais quand même, tu sais, avec le bon Dieu, il faut toujours continuer. Hein. Oh, de toute façon, ce n'est pas votre bon Dieu qui me fera avoir des villas et des chevaux. Alors moi, je lui ai dit, mais tu sais, dans la vie, il y a peut-être autre chose que des villas et des chevaux. J'ai tout fait, je n'ai plus besoin de bon Dieu. Et ça, aujourd'hui, c'est tout à fait courant, le nombre de gens qui pensent que ben, j'ai tout fait, j'ai fait ma... Alors moi, quand je rencontre des fiancés et que je leur dis, où est-ce que vous en êtes par rapport au bon Dieu ? Ah ben, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion et ma deuxième communion. Et ben ça, quand j'entends la deuxième communion, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas eu grand-chose, parce qu'après, c'est fini, la troisième, elle n'est pas encore arrivée. Mais c'est dramatique, ça. C'est vraiment dramatique. Et je me souviens d'un autre monsieur, je citerai simplement son nom de famille, c'est Solvay, le grand groupe chimique belge. Et il venait à la maison régulièrement pour le travail, parce que mon père était directeur d'une usine Solvay. Et j'ai vu cet homme, un homme qui n'avait pas 40 ans, qui était en pleine déprime. Il avait tout ce que la vie peut donner. Il avait un avion, il avait des villas, il avait un bateau, il avait des chevaux, tout. Et il était malheureux. Et j'entends mon père commencer à lui parler de la parole de Dieu. Mais cet homme-là, eh ben, sa vie était complètement étouffée par la richesse. Alors, cette parabole et son explication, c'est, je pense qu'aujourd'hui, la crise en France de l'Église, elle est liée au matérialisme ambiant dans lequel nous vivons. Moi, j'ai un cousin qui fait du blé dans l'Eure, à Saint-André-de-l'Eure, il a 350 ou 400 hectares de blé. Un jour, il m'a dit, mais moi, je n'ai pas plus besoin de Dieu, j'ai tout le matériel qu'il faut pour sécher le grain, même si je peux moissonner par n'importe quelle saison. Alors, je lui ai dit, fais attention, parce que un jour, tu découvriras que tu n'as pas tout ce qu'il faut quand même tout seul. Mais se passer de Dieu, un athée, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de Dieu. Alors, voilà. Et par contre, voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Comment vous le savez ? Comment vous le savez ? Non, non, là vous faites marcher votre imagination, je vous arrête tout de suite. Non, non, moi j'ai été voir dans un dictionnaire d'archéologie agronomique pour savoir combien on récoltait de blé en Terre Sainte il y a 2000 ans. Eh bien, on m'a assez noté que les meilleures récoltes connues étaient de 28 pour 1. Si vous semiez un sac de blé, vous en récoltiez 28 maximum. Et là, la parole de Dieu, la plus petite récolte, c'est 30. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle donne toujours du fruit en surabondance. Et je vous promets que si vous prenez du temps pour ruminer la parole tous les jours, vous en verrez les fruits en surabondance. Je surveille l'heure parce que je suis bavard et il faut que j'avance. Mais après ça, vous avez... alors, c'est amusant. Si vous voulez retenir pour les Provençaux le plan du chapitre 4e de Marc, vous allez dans un mas. Vous franchissez la porte, la porte d'entrée, vous avez les champs, vous arrivez à la maison qui est au centre, et puis pour ressortir, vous allez retraverser des champs pour ressortir. Et bien là, on entre dans la maison. Alors écoutez bien, bon, je vais voir tout de suite si vous voyez. Il leur disait, est-ce que la lampe arrive pour être mise sur le lampadaire ou sous le lit? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans cette phrase? Vous avez déjà vu une lampe marcher, vous? Est-ce que la lampe arrive? Eh bien non, mais moi, sauf dans les dessins animés où on voit tout maintenant. Mais en réalité, dans cette phrase, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit la lumière qui arrive en vous, est-ce que vous la mettez sous le lit ou sur le lampadaire? Dans votre vie, le Christ lumière, vous le mettez toujours sur le sommet de votre tête pour qu'il rayonne, ou est-ce que parfois vous le cachez sous le lit? Quand j'étais responsable des études à N'Djamena au séminaire, toute la semaine, les séminaristes, ils avaient une belle croix en bois autour du cou, bien pendue, etc. Le dimanche après-midi, ils pouvaient partir en ville pour 3 heures. Eh bien, quand ils montaient dans les Peugeots, là derrière, hop, on voyait les croix se rentrer. Et parce qu'en ville, ils buvaient. Mais moi, ça m'est arrivé de faire une homélie en leur disant, mais vous êtes horribles. Toute la semaine, vous vous pavanez avec Jésus sur la croix, et quand vous partez en ville, hop, on cache la croix. À Toulouse, cette belle ville de Toulouse, c'est la plus belle ville du monde, eh bien, il y a eu un supermarché qui s'est mis en... Les caissières se sont mis en grève sauvage, tout d'un coup. 60 caissières, plus une caisse, plus une caissière. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Alors, il y a des gens les plus malins, ils sont tout de suite sortis avec leur caddie. Il y avait sûrement des chrétiens parmi eux. Et après, il y en a qui m'ont dit, pour une fois qu'on pouvait les rouler, alors que c'est toujours eux qui nous roulent. Mais c'est pas très moral, ça. Alors, il y en a qui ont voulu faire plus, ils ont été chercher des télévisions et tout, mais dans l'intervalle, la direction, elle avait bien sûr fermé toutes les caisses. Et ils n'ont pas pu sortir avec leur caddie. Et la plus grosse perte, m'a dit le directeur du supermarché, c'est des millions de surgelés qui ont été perdus parce qu'ils étaient dans les caddies. Et on a dû les jeter. Mais tous ces gens-là, et quand j'entends voler l'impôt, tricher sur l'impôt, c'est pas voler. Un jour à Auchan, j'avais commandé des petites cartes pour un appareil photo. À l'époque, ça coûtait encore cher. Il y en avait pour 90 euros, qui est l'équivalent en francs. Et je viens les chercher parce qu'il fallait les commander. Et on me dit, c'est 8 euros. Moi, je dis, excusez-moi, ce n'est pas du tout le prix que j'avais vu. Et c'était un 11 novembre au matin. Et on me dit, moi, je ne sais pas, la caissière, elle me dit, j'appelle le chef n'était pas là, elle me dit, moi je vous fais payer ce qui est marqué, mais moi je n'ai pas voulu. Et elle me dit, mais vous êtes fou ou quoi? De toute façon, on sera obligé de vous le vendre, ça c'était vrai, on sera obligé de vous le vendre au prix marqué, c'est le prix affiché. Mais, alors moi dans la vie, vous avez un billet de train, le contrôleur ne passe pas, il n'est pas tamponné, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites rembourser? Oui. Alors, moi, je pense que dans la vie, il faut vraiment... est-ce que la lumière du Christ, je la mets au cœur de ma vie? Voilà la question. Est-ce que la parole de Dieu va devenir la lumière de ma vie? Et puis après, quand on ressort de la maison, vous avez une parabole sur une fois que la graine est semée. Le paysan, il ne va pas venir tous les matins regarder si ses carottes poussent. Il sait que la semence, une fois semée, elle va germer, elle va porter du fruit en surabondance. Eh bien, nous aussi, la parole, si on l'accueille, elle va faire son œuvre en nous. Peu importe, nuit et jour, elle va travailler au plus profond de notre cœur. Et puis, la dernière parole, c'est la parole de Dieu, c'est comme la plus petite graine du monde. Et c'est une graine de moutarde. Mais en fait, dans les bibles, maintenant, oui, c'est encore la moutarde ici, parce qu'il y a plusieurs plantes. Bon, le senvé, oui. Mais en fait, on m'a ramené des graines de senvé d'Égypte. C'est de la poussière. C'est vraiment de la poussière. C'est la plus petite des graines. Eh bien, quand je prends mon Nouveau Testament, bon, c'est un livre comme un autre. C'est un livre, c'est tout. Mais en fait, c'est du feu, parce que c'est la parole même de Dieu. Alors, c'est là où on voit que la parole de Dieu qui peut paraître, bah oui, c'est... Moi, j'ai entendu les enfants, après 4 ans de catéchèse, ils vous disent, tout ça, je connais. Mais ils ne connaissent rien. Mais ils ont l'impression de connaître. Alors, la parole de Dieu, la Bible, c'est quelque chose qui n'est rien du tout. Moi, un jour, dans un monastère, j'étais assis par terre et j'ai posé ma Bible à côté de moi. Et il y a un vieux frère qui est venu, qui a embrassé ma Bible et qui était là posée sur l'autel. Il était scandalisé que je mette la parole de Dieu par terre. Eh oui. Alors, c'est vraiment là où on voit la puissance de la parole de Dieu qui va faire naître l'Église. Et après, vous avez les trois guérisons. L'homme possédé par une légion de démons, Jésus va envoyer tous les démons dans les cochons. Les cochons vont se précipiter dans la mer, là où sont tous les démons. C'est leur lieu normal de vie. Et puis, l'homme plein qui avait retrouvé son bon sens, et on va le retrouver assis. Et quand Jésus va partir, il va lui dire « Est-ce que je peux devenir ton disciple ? Rester avec toi ?» Et Jésus lui dit « Non, mais va dire aux gens de ton village comment Dieu t'a miséricordié. » Littéralement, c'est un verbe qui n'est jamais traduit dans la Bible ici, mais littéralement, c'est « comment Dieu t'a miséricordié. » C'est-à-dire, t'as complètement changé dans son amour actif de miséricorde. Et après, il y a une femme qui avait un flux de sang. Alors, l'homme, il cherchait la mort, on dit qu'il se taillait, alors qu'il est fait pour vivre. La femme, elle avait un flux de sang depuis 12 ans. Elle ne pouvait plus donner la vie. Son sein était mort. Et voilà qu'elle se dit, elle avait entendu parler de Jésus, elle se dit, si seulement je touche la frange de son vêtement, je serai sauvée. Elle vient par derrière, elle le touche, et immédiatement, elle est guérie. Et Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché? Et les disciples disent, mais ça ne va pas Seigneur, parce que tout le monde te presse de tous les côtés, et tu dis, qui m'a touché? Et Jésus se retourne pour voir celle qu'il avait touchée. Et il va lui dire, sois guérie de ton mal. Et le verbe employé, c'est le verbe qui signifiait l'action du maître des esclaves qui par son fouet garde les esclaves. C'est un gardien d'esclaves et il utilisait un fouet. Et bien là, cette femme, elle est libérée de tous les démons qui la maintenaient en esclavage. Elle va pouvoir redonner la vie. Et après, vous avez une petite fille, elle était comme morte. Et Jésus dit, vous en faites pas, elle n'est pas morte, elle dort. Tout le monde se moque de lui. Et Jésus prend les parents de l'enfant avec ses deux disciples. Il entre et lui dit, Talitha cum, lève-toi et marche. Lève-toi, attention, c'est entre dans le mystère de la résurrection, car le verbe se lever, c'est le verbe qui sera employé pour la résurrection de Jésus. Et immédiatement, la petite fille se lève, et elle avait quel âge ? 12 ans. Eh bien, maintenant, ça veut dire qu'elle est majeure, elle peut enfanter. Et donc, vous avez vraiment la naissance de l'Église avec un païen, une juive, une femme juive, mais dont le sein est mort, et puis une petite fille dont le sein est prêt à donner la vie. Et c'est le mystère de l'Église qui jaillit de l'écoute de la parole de Dieu. Alors, après, plus rapidement, car il ne me reste que quelques instants, quand même, au chapitre 10e de la lettre aux Romains, ça c'est un texte aussi important, très très important, pour montrer le rôle de la parole de Dieu. Alors, c'est au verset 14 et suivant. Alors, ah ben je suis dans les Actes des Apôtres, je ne risque pas de trouver. 10, voilà. Or, les païens, comment l'invoqueront-ils sans avoir cru en lui ? Et comment croiront-ils sans avoir entendu ? Et comment l'entendront-ils si personne ne le proclame ? Et comment le proclamer sans être envoyé ? Et le mystère de l'Église, c'est que le Seigneur nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Eh bien, aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la parole. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Isaïe dit en effet, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ainsi, la foi vient de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Eh bien, il faut que nous devenions des porteurs de la parole pour que cette parole puisse aller toucher nos frères. Trois petits passages des Actes des Apôtres. Les quatre piliers de l'Église, ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, c'est l'écoute de la parole. Après, à la communion fraternelle, c'est l'amour des frères. Ensuite, à la fraction du pain, c'est l'Eucharistie. Et aux prières, c'est la prière sous toutes ses formes. Mais ils étaient fidèles d'abord à l'enseignement des apôtres. Ça nous montre que le premier pilier de l'Église, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Et même antérieurement, dix versets avant ces versets-là, vous avez « D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. » Le matin de la Pentecôte, quand les disciples sortent, ils commencent par proclamer les merveilles de Dieu, et chacun les entend dans sa langue. Puis Pierre, entouré des 12, prend la parole. Il annonce Jésus-Christ, le kérigme, celui qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes les témoins, et cette bonne nouvelle, elle est pour vous aussi. Et on nous dit, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle a été transpercée le cœur grâce à la puissance de l'Esprit Saint, et ils vont dire aux apôtres, frères, que devons-nous faire ? Et Pierre répondra, convertissez-vous, faites-vous baptiser, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Et par bien d'autres paroles, il les enjoignait à quitter ce monde pervers. Et enfin, au chapitre 3, quand Pierre et Jean montent au temple pour prier, et voilà qu'à la porte du temple, il y avait un mendiant qui était là depuis sa jeunesse, on le portait à la porte et il faisait l'aumône. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que les Roumains, ils continuent à venir mettre les gens pour essayer de nous tirer un euro ou deux. Et là, Pierre et Jean arrivent, ils le regardent, et là, le mendiant, il se dit, ben, s'il s'arrête, c'est bon signe, je vais avoir un euro ou deux. Et qu'est-ce que Pierre lui dit ? De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, ils le firent se lever. Il entre dans le mystère de la résurrection grâce à la parole de Dieu. Et on dira aussi dans les Actes des Apôtres que la parole de Dieu, c'est la voix. On nomme l'Église la voie, le chemin, pas la voie. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait, cette parole? Eh bien, elle dépose en nous la semence de vie divine. Et on peut vérifier ce lien. Pour Dieu, dire et faire, c'est la même chose. Alors que nous, souvent, on dit des choses, mais on n'en fait pas la moitié. Mais pour Dieu, dire et faire, c'est la même chose. On le voit au moment de la création. Dieu dit, et il en fut ainsi. Ce fut le premier jour. Dieu dit, et il en fut ainsi. Ce fut le deuxième jour, etc. Mais ça, Marie l'avait très bien compris. Quand elle dit au serviteur à Cana, c'est la seule fois où elle nous donne une consigne, Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle a vu le lien entre dire et faire pour son fils. Et au moment de l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le lien entre ces deux verbes-là dans l'action de la parole de Dieu. Et alors, avec tous les pères de l'Église, je voudrais maintenant quelques petits flashs avant de finir. Je surveille l'heure, oui, il faut vraiment que je m'arrête. Eh bien, l'important, c'est d'accueillir la parole dans la puissance de l'Esprit-Saint. On trouve ça au début de la lettre aux Thessaloniciens. Vous l'avez accueillie non pas comme une parole, mais comme la parole de Dieu. Et vous l'avez accueillie dans la puissance de l'Esprit-Saint. Dans les Actes des Apôtres, quand Paul annonce la parole, on nous dit que les gens, le jour suivant, ils se réunirent pour la scruter, cette parole, pour voir si ce qu'elle disait était vrai. Il faut scruter la parole. Dans Saint Matthieu, Jésus lui-même nous dit que la parole, c'est comme un trésor caché dans un champ. La parole, c'est également une nourriture vitale. Un homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Saint Jean, au chapitre 6e, celui qui mange ma chair et boit mon sang, continuez. Voilà, c'est une erreur, madame. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. C'est pas un futur, c'est un présent. Ben, ça change tout. C'est que dès maintenant, la parole, elle me donne la vie éternelle, mais elle me donne Jésus. Alors, elle est une fontaine, une source d'eau vive. Mais attention, il y a une condition sine qua non pour entrer dans l'intelligence de la parole de Dieu, c'est l'humilité. Car si j'y entre pas humblement, je risque d'entrer en conflit avec Dieu. Et il faut l'accueillir. Moi, il y a des passages, je n'ai pas encore compris. Alors je dis à l'Esprit-Saint, le jour où tu voudras m'expliquer, explique-moi, mais pour l'instant, ça, je ne comprends pas. Alors, pour finir, vraiment, c'est une invitation à vous tous pour accueillir la parole aujourd'hui et vous en nourrir tous les jours. Mais vraiment, prenez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes tous les jours pour ruminer la parole de Dieu. Et moi, je peux vous dire que quand j'ouvre mon Nouveau Testament, je peux affirmer que c'est Noël pour moi aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Eh bien, chaque fois que j'accueille la parole, le Verbe, eh bien, il prend chair, il prend vie dans ma vie, et je peux dire que c'est vraiment l'incarnation de la parole en moi. Voilà, je m'arrête et je vous laisse ruminer tout ça jusqu'à la messe à 11h à la visitation.